Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
C'est Mirbeau qu'il nous faut.
Octave Mirbeau, La grève des électeurs. Une chose qui m'étonne prodigieusement, j'oserais dire qu'elle me stupéfie, c'est qu'à l'heure scientifique où j'écris, après les innombrables expériences, après les scandales journaliers, il puisse exister encore dans notre chère France, comme ils disent à la commission du budget, un électeur, un seul électeur, cet animal irrationnel, inorganique, hallucinant, qui consent à se déranger de ses affaires, de ses rêves ou de ses plaisirs pour voter en faveur de quelqu'un ou de quelque chose.
Cette grève des électeurs, c'est un texte clé qui paraît au moment du centenaire de la prise de la Bastille quand le général Boulanger, le monsieur propre du moment, s'applique à renverser la table. Le boulangisme veut opérer comme une lessiveuse, mais au sentiment de Mirbeau, il fait du pays entier une loge de concierges, puis une immense latrine. On va marcher dans l'ordure, enlisée jusqu'au cou pendant la campagne. Le Mirbeau de cette époque ne croit pourtant ni à la sincérité de la République, ni au bilan positif de la Révolution française. Pour lui, elle n'a fait que déplacer le centre de gravité des privilèges. Aussi, s'affirme-t-il clairement anarchiste, il est peu d'écrivains qui soient allés aussi loin que lui dans cet engagement. Se sent-il pour autant le porte-parole du peuple ? Il aime plutôt parler au peuple, parler du peuple. Mais le peuple ne porte pas que des valeurs d'humanité. On peut même trouver de l'humanité chez des Richards et jusque chez des Galonards. Le capitaine Dreyfus se trouve porter ces deux stigmates. De surcroît, il est juif. Et Mirbeau a publié dans sa jeunesse des textes antisémites, comme nombre de plumitifs de gauche. Risquant le tout pour le tout, il apporte néanmoins son soutien tonitruant au capitaine. L'anarchiste naviguait pavillon haut. L'acharniste de la cause de Dreyfus, pareillement, mais cette fois, avec le souci de ne pas rester seul, de former escadre avec Zola ou Clémenceau.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
François Livonnet, bonjour.
Bonjour.
Au carnet de Lerne, trois petits livres et des textes d'intervention politique d'Octave Mirbeau, qui est un peu oublié aujourd'hui, injustement, quand vous envoyez ces trois volumes minces hein, aux journalistes. Certains vous répondent
que l'actualité n'est pas à Mirbeau.
Ah.
Donc Mirbeau existe si peu que Mirbeau, qui n'existe pas beaucoup, est tout de même sur le devant de la scène.
Enfin, c'est tout de même le centenaire, février 1917, de la mort de Mirbeau. Ça ne fait pas partie des priorités des célébrations nationales non plus, il faut le dire. C'est pourtant un auteur de romans qui a été extrêmement connu, des romans qui sont souvent d'avant-garde quant à la forme ou à l'idée, en tout cas.
Oui, c'est vrai. Même allant jusqu'à la déconstruction de la technique romanesque ou de la forme romanesque. Oui, c'est quelqu'un qui est très très d'avant-garde,
par
très
exemple,
original.
Il a fait de Dingo son héros dans certains romans. Dingo, c'est son chien.
Voilà. Oui. C'est son chien qui porte un regard de chien. Et en plus, c'est un chien qui n'est pas non plus exemplaire. Hein. C'est un chien qui est capable aussi de mordre et de dévorer le plus faible.
Ça a pu être un museau d'automobile aussi.
Exactement. Il a écrit le premier roman automobile, 628 E8, qui est un road movie avant l'heure, qui est à 50 km/h. Hein. C'est donc relatif, mais tout de même, c'est une vitesse qui était plus élevée que celle du cheval.
Auteur de théâtre prolixe, de grands textes à la Molière, des farces aussi, à la Molière peut-être. Et puis alors, il est connu comme un immense critique d'art. Il avait un œil sans pareil.
Oui, c'est vrai. Et critique d'art et ami des artistes. Prenons l'exemple de Rodin, par exemple, qu'il a été l'un des premiers à soutenir, de Monet, de Degas. Donc c'est quelqu'un qui avait un œil. Et c'est ce que diront d'ailleurs ses amis artistes. Il ne se trompait pas, même s'il a pu avoir à l'occasion quelques fautes de goût. Mais c'est par exemple, il fera découvrir la Bretagne et Belle-Île à Monet.
Oui. Belle-Île, c'est un lieu de résidence de François Livonnet. Degas, Rodin, c'était pas des Dreyfusards. La politique ne suffit pas à résumer un homme, mais c'est de politique qu'on va parler aujourd'hui, puisque les textes que vous rééditez sont les textes d'intervention politique et ils s'inscrivent dans un vaste cadre de publication que pilote, c'est pas le cas pour vos livres, La Société Octave Mirbeau, dont on verra quel est le résumé des activités de cette année sur notre site. Il a passé son enfance dans le Perche. Alors aujourd'hui, Rémalard est réputé pour être la capitale du parc régional naturel du Perche. Une boutique de décoration chic, un spa. C'est plus chic que Belle-Île. Mais à l'époque...
C'est la campagne reculée. Mais il est né dans le Calvados. Hein. Oui. Il est né dans le Calvados. C'est un fils de notable de province. Une famille côté maternel des notaires. Et son père est officier de santé comme Charles Bovary. Quant au Perche, ça le rapproche peut-être de la famille d'Alain. Alain était fils de vétérinaire, je crois.
À Mortagne. Il a passé, c'est pas le cas d'Alain, des études chez les jésuites de Vannes, dont il a gardé le meilleur souvenir.
Saint-François-Xavier, je crois. Non. D'abord, ça va faire naître en lui un certain ressentiment à l'égard du clergé, et du clergé enseignant, et du clergé qui parfois allait au-delà de l'enseignement parce qu'il aurait été probablement victime d'un viol dont il parle d'ailleurs dans Sébastien Roche. Donc il a été très blessé par cette fréquentation du collège jésuite.
Sans guerre de diplôme qui lui... puisse assurer une situation solide, il va devenir un prolétaire des lettres, un plumitif vendu, comme ici, dans sa pièce Le Foyer, où s'ébroue un sénateur qui veut acheter les journalistes.
Il m'est agréable de voir couronner en vous le jeune défenseur des idées qui sont chères à tous les vieux amis de l'ordre.
Oh, sous ce rapport.
Je le sais. Aussi connaissant vos idées, je tiens beaucoup à vous mettre en garde contre un penchant qui vous entraînerait peut-être plus loin que vous ne pensez.
C'est vrai, mon cher maître. On m'a reproché certaines hardiesses dans la peinture des choses de l'amour.
Elles ne me choquent pas. Elles ont de la grâce. Non, non. Je voulais parler du penchant que vous avez pour la satire. On ne se défie jamais assez du penchant pour la satire. À force de décrier les mœurs du temps, on ferait son chemin à la révolution.
Dieu m'en garde.
Je savais qu'il suffirait de vous avertir. Retenez bien ceci. Rien n'est capital pour le maintien de l'ordre, comme de taire le mal. Il est beaucoup moins important de faire le bien que de taire le mal. Taire le mal. Taire le mal. L'empêcher, bien sûr, si l'on peut. Mais surtout... taire le mal, taire le mal, taire le mal.
Le Foyer dans une réalisation d'Alain Trutat en 54, il y a souvent comme ça des chœurs dans les pièces d'Octave Mirbeau. L'Ordre, c'est le titre du journal auquel il collabore et qui est dirigé par Duguay de la Fauconnerie, ça c'est un nom qui ne s'invente pas. Vous savez, très châtelain de l'Ouest à clientèle politique, vous voyez, c'est pas dans la Sarthe ni dans la Mayenne, c'est dans l'Orne.
On n'est pas loin. Hein.
Oui.
Mais c'est vrai, c'est cette aristocratie de province, catholique, cynique et très puissante, dont on retrouve des traces d'ailleurs dans d'autres pièces. Les affaires sont les affaires. Une sorte de petit marquis décavé qui est du même ordre au fond.
Il va tout aussi bien, plumitif vendu, prolétaire des lettres, travailler pour Joubert. Alors Joubert, c'est l'adversaire irréconciliable des Rothschild.
Oui, alors c'est une certaine presse qui sera en partie d'ailleurs financée par des banques et des banques proches des milieux catholiques. Par conséquent, on retrouve
des milieux catholiques qui reprochent à Rothschild d'avoir piloté de près ou de loin la faillite d'une grande banque catholique
de l'Union Générale. C'est ça, exactement, et qui va nourrir une partie de, disons, des sentiments ou de l'hystérie antisémite, non pas simplement du petit peuple ou des classes moyennes, mais de financiers. Qui intéressant de voir que l'Église catholique cautionnait des spéculations, des agiotages, et que par conséquent, ce sont des ressentiments qui sont nés, je dirais, dans le milieu de la finance elle-même.
Alors, ils constituent comme ça un herbier humain, un peu comme les domestiques quand ils observent leur maître qui mange salement à table, peuvent prévoir des arguments quand ils auront les armes pour faire la guerre. Quoi. Parce qu'il va, à partir de 84-85, on est au 19e siècle, 1884-1885, se mettre à son compte, assez bien d'ailleurs, hein.
Oui, parce qu'il va commencer par être bonapartiste, puis monarchiste, dans la lignée de familiale. Hein. Notons qu'avant, vous parlez de cette rupture de 84, Mais même avant, ce qui est assez curieux et paradoxal, c'est que même lorsqu'il est dans des journaux réactionnaires, très réactionnaires, conservateurs et réactionnaires, il garde une certaine liberté de ton et déjà s'attaque aux riches, à participer à des manifestations aux côtés de Louise Michel, ce qui peut paraître assez étrange.
Non, mais dans sa jeunesse, il avait entretenu une correspondance de tonalité républicaine avec ses vrais amis et il avait dû passer par les conditions qu'on lui imposait. Et se mettant à son compte, il va réussir à constituer un revenu, je dis pas régulier parce qu'il croulait sous les dettes, mais suffisant pour l'autonomie.
Oui, et puis sa plume va être réclamée, il sera assez bien payé, il le sera encore mieux plus tard, puisqu'on parle de petites chroniques payées à l'équivalent de 1000 euros aujourd'hui, ce qui est pas mal pour les gens qui connaissent les tarifs de la presse. Donc c'est quelqu'un qui va être un journaliste non pas marginalisé et précaire, mais capable en effet de vivre décemment.
Et c'est d'ailleurs à la Comédie-Française, ça prouve le statut auquel il est parvenu non sans difficulté, que sont données les affaires. Sont les affaires, cette pièce que vous citiez tout à l'heure et qui commence en effet dans le Perche où Isidore Le Chat, un financier sans scrupules, qui joue sur tous les registres de la puissance, y compris le journal, a constitué une modeste propriété.
Je suis Isidore Le Chat, châtelain de vos perdus, riche à 50 millions, et que je possède un journal où je dirige l'opinion politique, philosophique et littéraire. Regardez ça. Allez là, tout ce que vous voyez, à droite, à gauche, devant vous, derrière vous, enfin, à perte de vue, hein, tout ça c'est à moi. J'ai 17 000 hectares, dis donc. Voilà, je suis sur deux départements, 22 chefs-lieux de canton, 44 communes. J'ai 419 champs et herbages, j'ai compris mes réserves. Ah mais vous verrez ça bien mieux sur mon plan. Garou, mon petit, allez me chercher mon plan dans l'antichambre. À gauche, sur la console de Marie-Antoinette. 14 heures, t'entends, 14 heures pour faire le tour de mon domaine. Tout ce que j'ai voulu, je l'ai réalisé. J'ai voulu être un riche, je le suis. J'ai voulu ce château, je l'ai. Je veux être député, je le serai.
Alors c'est souvent joué, les affaires sont les affaires. Il y a une version avec Charles Vanel, ici c'est Henri Wilbert dans une réalisation télévisée de Gilbert Pinault. Il est anarchiste à partir de 90.
Il se déclare tel à partir de 94, mais il est déjà, il adhère déjà aux idées libertaires à partir de 90, et cela ira en s'affirmant.
La République ne présente pas d'avantage pour lui?
Non, parce que la République, pour lui, c'est d'abord l'institutionnalisation du pouvoir, de la puissance, des castes, de tout ce qu'il exècre.
Les électeurs, c'est des moutons qui vont chez le boucher.
Oui, c'est l'image. Alors, ça paraît évidemment difficile à défendre. Il est quand même aujourd'hui bien des peuples essaient de se libérer et de profiter de la démocratie. Mais enfin, la critique qu'il porte est une critique contre la démocratie représentative et qui finit par ne plus représenter personne, par constituer une sorte de caste. Donc par conséquent, c'est une sorte d'invitation, si j'ose, métaphorique. C'est une application à la politique de la propagande par le fait et de la reprise individuelle, hein, c'est-à-dire par le fait de faire comprendre, en désertant les urnes, que ce système représentatif est une escroquerie, et la reprise individuelle parce que c'est au nom de l'individu, de la créativité individuelle, au fond de la véritable participation politique des citoyens, qu'il dénonce ce simulacre, ce jeu électoraliste qui ne fait que reproduire une situation et qui n'est capable d'aucune rupture.
Mais il a une immense sympathie, en revanche, pour l'immense peine des hommes qui fait l'histoire quotidiennement, ceux qui travaillent la même besogne tous les jours. Ceux qui mendient aussi. Il y a beaucoup de personnages de mendiants. Jean Guenille, qui trouve un portefeuille, qui le dépose au commissariat de police et qui est envoyé au poste parce qu'il n'a pas de domicile à démontrer.
C'est vrai, c'est ce qu'on appellerait ces SDF aujourd'hui, qui seront les victimes des lois scélérates dont on parlera peut-être tout à l'heure. Oui, tous ces humbles qui à la fois à l'égard desquels il se sent une certaine dette morale et peut-être même une dette littéraire, en tout cas une dette d'écriture, mais en même temps sans les idéaliser, car ils sont aussi capables de petitesse, car c'est ça aussi l'effroyable misère, c'est de faire que les gens sont aussi capables de petitesse.
Un milieu d'observation pour lui, On parlait du châtelain et de ses propriétés. C'est l'office avec ses domestiques. Les affaires sans les affaires, c'est le châtelain. Le journal d'une femme de chambre auquel on va venir, c'est l'office. Ici, un compositeur contemporain, Massenet, le cœur des domestiques dans Cendrillon. Les domestiques trouvent que madame est absolument insupportable. Que monsieur, il est gentil, très gentil, très très gentil.
Continuez, ce n'est que moi, pour toi vous taisez-vous. Pas besoin de prudence, ne soyez pas ainsi troublés par ma présence. Et dites, que se passe-t-il ?
C'est bon.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Octave Mirbeau, c'est le centenaire de sa mort. La société Octave Mirbeau, sans guère d'appui politique, organise toutes sortes de manifestations à Rémalard, le village de son enfance, les bénévoles de la bibliothèque municipale lisent des textes de Mirbeau et François Livonnet au carnet de Lerne, publie 3 volumes d'intervention politique de Mirbeau, je vous rassure, des volumes courts et bien sentis. Le livre qui a le mieux survécu, c'est le journal d'une femme de chambre.
Oui, en effet. D'abord parce que dans ma jeunesse, il était très facilement disponible en édition de poche, en collection 10-18, je me souviens. Ce qui prouve qu'il y avait des audaces éditoriales qui n'ont peut-être plus cours. C'est aussi un texte qui a été sur la Jureg, qui a profité de l'adaptation de Buñuel, adaptation assez remarquable. Puis c'est un texte qui, à bien des égards, n'a pas vieilli. D'autres textes de Mirbeau ont peut-être un peu plus vieilli, à la fois par le ton assez ironique, par la critique sociale, la domesticité. Mais là aussi, on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas d'idéalisation abusive. N'oublions pas que la femme de chambre finira bistrotière à Cherbourg.
Mais attendez, ça ne brûlons pas les étapes. D'abord, il faut qu'elle passe au bureau de placement. Plus personne ne sait ce que c'est qu'un bureau de placement dans... Dans les couvents de Paris, il y avait des adresses de bureaux de placement pour les jeunes filles qui arrivaient de leur province. Et alors le bureau de placement, c'était une demoiselle ou une dame qui
permettait de
mettre en contact.
Voilà.
Et toujours dans la récrimination, on ne trouve plus personne pour être servi correctement. Il n'y a plus de filles honnêtes. Elles voudraient gagner des fortunes tout de suite, etc.
Exactement, oui.
Aujourd'hui, à 3h de l'après-midi, par un temps doux et pluvieux, c'est Célestine qui parle. Je suis entré dans ma nouvelle place, c'est la 12e en 2 ans. La propriété s'appelle le Ménilroy, en Normandie, toujours le Perche, la Normandie. Madame m'a dit de suite, je vous ai prise, mais il faut aussi que vous plaisiez à monsieur.
Et vous, Célestine ?
Oui, monsieur.
Célestine, j'aime beaucoup ce prénom, sincèrement. Mettez ça là. Mais il est un peu trop long, vous ne trouvez pas ? Et même beaucoup trop long. Si vous voulez bien, je vous appellerai Marie. Marie, c'est très joli aussi, et c'est plus court. Et puis, toutes mes femmes de chambre, je les ai appelées Marie. C'est une habitude, et je crois bien qu'il me serait impossible d'y renoncer.
Monsieur prend combien de sucre ?
2. Alors, ça ne vous ennuie pas que je vous appelle Marie ? C'est bien entendu ?
Mais oui, monsieur.
Très bien.
Si monsieur le permet, je vais me retirer.
Non, attendez, ma petite Marie, attendez un peu. Vous avez un moment ?
Je suis au service de monsieur.
Vous savez, quelquefois, le soir, il m'arrive d'être un peu fatigué. J'aime bien qu'on me fasse de la lecture. Une jolie voix, c'est tellement agréable à écouter. Asseyez-vous. Lisez.
Puisque par le temps qui court, il n'existe plus de substance saine, puisqu'il faut enfin une singulière dose de bonne volonté pour croire que les classes dirigeantes sont respectables et que les classes domestiquées sont dignes d'être soulagées ou plaintes.
Marie, écoutez-moi, ça ne vous ennuie pas que je vous touche le mollet?
Il faut qu'il soit vraiment très attentif au mollet pour qu'il ne se rende pas compte du contenu des lectures qu'il fait faire Georges Géret à Jeanne Moreau qui interprète Célestine. Donc on avait le prêtre abuseur, voilà le propriétaire fétichiste.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que on a souvent mis en évidence le fait que la domesticité nourrissait en même temps la prostitution parisienne. Là, c'est la forme de prostitution, je dirais, de près quasi professionnelle. Le métier même de domestique s'accompagnait d'abus sexuels, hein, qui étaient presque institués. On notera tout de même que Célestine, non seulement sait lire, mais lit bien. Si on voit Jeanne Moreau, elle était donc déjà d'une certaine qualité sociale.
Monsieur est gentil, très très gentil, mais c'est madame qui est insupportable. Par exemple, elle tient beaucoup à ses lampes dont les globes doivent être remplacés si jamais, par malheur, ils cassaient en Angleterre.
Je vous recommande aussi cette lampe, faites-y très attention. Si le globe se casse, on ne peut le remplacer qu'en Angleterre. Et son pot de chambre quand il est fêlé, on l'expédie à Londres? Je ne sais pas si je resterai 3 jours dans cette baraque.
On dit toujours ça, puis on reste.
Enlevez cette lampe, elle me gêne. Bravo, madame va être ravie.
Comme si c'était de ma faute.
C'est peut-être de la mienne.
Je m'en fous, ça me fera un petit voyage en Angleterre, j'irai changer de globe.
Tiens, hier soir il paraît qu'on a tapé sur des métèques à Montparnasse. Ça au moins c'est quelque chose. Bientôt dans le coin j'en connais d'autres qui vont passer. Pas forcément des métèques.
Toujours le même refrain.
Qu'est-ce que c'est les métèques?
C'est barrière ta gueule dans une glace et puis t'en verras un. Tiens, écoute ça. Mais pour l'honneur de notre pays, il existe une autre droite que celle-là. Sera-t-elle se vertébrer et marcher au combat unie et résolue?
Entre. Bonjour tout le monde. En Roumanie, on a tué 12 juifs.
Ben, ça fait 12 de moins. C'est toujours ça de gagner. Et l'article de Richard?
Formidable.
Tiens, à la tienne.
À la tienne.
Pourquoi parlez-vous toujours de tuer les juifs?
Vous n'êtes pas patriote?
Si.
Ben alors?
Alors moi, si j'étais à Paris, j'en crèverais un tous les jours.
Les ministres, le gouvernement, les juges, tout ça, c'est des vendus. C'est pour ça que tout va mal. C'est pas pour autre chose. Maintenant, on s'en prend de nouveau à la religion.
Alors moi, les curés.
Oui, tu n'aimes pas les curés, je sais.
Ah, j'aime pas les curés, mais je suis pour la religion. La religion, on peut pas s'en passer.
Et je t'ai déjà dit que les curés nous aideront à chasser les juifs, tu verras.
Toujours le film de Buñuel. Là, on est à l'office. Et c'est Joseph qui est la grande gueule. Joseph, pour qui Célestine va éprouver des sentiments troubles. Bien qu'elle lise dans le bleu de ses yeux une infinie violence.
Oui, c'est toute l'ambiguïté et la complexité du personnage, qui à la fois est une grande qualité d'observation, je dirais que la critique sociale passe par son regard, et en même temps qui est capable d'aveuglement. C'est souvent les personnages chez Mirbeau ont cette dimension assez contradictoire.
À l'office, on lit La Libre Parole, le journal de Drummond. On est au sommet, là, au zénith de l'affaire Dreyfus.
Oui, puis La Libre Parole, à l'époque, est un journal qui est lu par un certain nombre de milieux populaires. Il est clair que le juif et le ploutocrate sont associés, c'est un vieux topos de l'antisémitisme du 19e siècle. Et cette clientèle populaire sera déterminante d'ailleurs dans l'évolution ultérieure des mouvements radicaux.
Alors dans vos carnets de Lerne, il y a un des 3 volumes qui est dédié à des textes de l'affaire de Dreyfus. Il s'engage dès janvier 98, alors qu'il avait participé au Grimace, une publication antisémite une vingtaine d'années auparavant. Il signe la pétition des intellectuels. Mais attendez, c'est pas le genre Mirbeau à ne signer que des pétitions.
Non, c'est quelqu'un qui s'engage. Vous parlez de ces textes antisémites, il s'en expliquera d'ailleurs dans ses textes publiés, notamment dans le texte Palinodi, où il regrettera, le moins qu'on puisse dire, cet aveuglement antisémite, je dirais presque cette facilité qui consiste à placer sous l'antisémitisme l'ensemble des problèmes de la société. Non, c'est un engagement qui n'est pas simplement un engagement verbal, c'est un engagement total, hein, y compris d'ailleurs en prenant des risques, parce qu'il sera à plusieurs reprises menacé. Il mettra une partie de son argent à la disposition de la cause. Par exemple, lorsque Zola sera condamné à des amendes très lourdes, non seulement à la prison, mais à une amende très lourde, c'est lui qui paiera. Par conséquent, il va devenir là très militant d'une cause. Et c'est peut-être le seul moment où il sera un militant au sens, je dirais, assez classique du terme.
Et au point de défendre un galonnard et de devenir l'ami du colonel Picard. Colonel Picard s'est retrouvé en prison parce que, comment dire, il est le témoin qui a dit la vérité. Et il y a un très beau texte sur la visite improbable quand même de l'antimilitariste Octave Mirbeau chez le colonel dans sa geôle.
Oui, c'est le paradoxe. La grande différence avec avec Zola, c'est que Zola prend la défense de l'armée contre l'armée. On ne s'attend pas à ce genre de choses de la part de cet antimilitariste qu'est Mirbeau. Mais il va rendre visite à Picard, qui est tout de même l'une des grandes victimes, parlons pas de Dreyfus, mais une des grandes victimes de cette affaire. Et il va le voir dans son cachot, et il y a une description du cachot, etc. Et il parle de littérature.
De peinture.
Et de peinture, et de Rembrandt en particulier. Ça me paraît très étrange que dans ce lieu, il parle de cela. Et Picard, au moment de se quitter, s'excuse de ne pas pouvoir le raccompagner. Et il est question de l'exposition universelle.
Oui, ça doit être désagréable d'habiter Paris. Il y a tellement de travaux pour l'exposition universelle. Les dernières années de Mirbeau seront plus sombres, assombries par la maladie et puis surtout par la guerre de 1914. C'est en 1917, il y a donc 100 ans précisément, qu'il est mort. Sacha Guitry a consacré un film en 1915 aux grandes figures de la France. Il était ami avec Octave Mirbeau. Il y a 15 secondes, 20 secondes d'apparition à l'image de Mirbeau. Et puis ce commentaire plus tard, quand Guitry a remonté le film et en a fait un film parlant.
À cette époque, il prévoyait sa fin prochaine et il en parlait volontiers. Et cela nous torturait, Clémenceau, Claude Monet et moi qui l'aimions tendrement. Il parlait de sa mort comme il parlait de toute chose, avec une évidente curiosité et le plus vif intérêt. Et même, il nous a dit un jour ceci. C'est Robin qui me soigne, alors je suis tranquille. Je ne mourrai qu'à la dernière minute.
Oui, on pourrait rappeler que Ernst Jünger, dans ses journaux parisiens, raconte que Guitry, chez Brinon, donc nous sommes en 42, dit que Mirbeau est mort dans ses bras, en 17, je rappelle, début 17, et qu'en mourant, il aurait dit cette dernière parole: ne collaborez jamais. Entendu, ne collaborez jamais avec d'autres auteurs. Mais il y a quand même quelque chose ici. Dernier trait d'humour transhistorique, si je puis dire.
Merci François Livonnet. Les Cahiers de Lerne, sur notre site, la référence à la société Octave Mirbeau. Cette émission a été préparée par Franck Olivard. Réalisation Valérie Estaraille. À la technique, Loïc Frapsos. Et votre programme, Mathieu Vidard.
Oui Jean, dans La Tête au Carré, on va s'intéresser à l'instinct animal pour donner des réponses à ses comportements.
Avec Gilles Leboeuf, donc, dans quelques instants.